France Inter, le 7-9.
7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivaine.
Bonjour à vous Karine Thuil.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Les choses humaines, votre 11e roman paru cette semaine chez Gallimard, est un livre qui fait réfléchir, un livre qui dérange, qui ausculte l'époque et nous la renvoie au visage, et notamment les rapports homme-femme, la question du sexe, du pouvoir, du viol, du consentement. C'est l'histoire d'Alexandre, 21 ans, un étudiant brillant, Polytechnique, Stanford, fils prodige d'un couple idéal et en vue, les Farrell. Le père est un journaliste politique vedette de la télévision et de la radio, la mère une essayiste féministe, bref tout va bien. Tout va bien jusqu'à ce qu'Alexandre soit accusé de viol par une jeune fille de son âge, Mila. Pourquoi avoir voulu écrire cette histoire? Est-ce que c'est le mouvement MeToo qui vous l'a inspiré?
Non, à l'origine, il y a un fait divers. Alors, j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2016, bien avant MeToo, à partir d'un fait divers qui a eu lieu à l'université de Stanford. Le procès a eu lieu en 2016 et il opposait un jeune étudiant de cette université, brillant, sportif émérite, venant d'une bonne famille, et une jeune fille qui était présente sur le campus un soir et il l'avait agressée sexuellement. Et la peine avait été très clémente, 6 mois de prison dont seulement 3 fermes, et il y a eu une véritable vague d'indignation aux États-Unis, et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur ce sujet en allant assister à des procès d'assises à Paris. Et là, j'ai découvert un univers que je ne connaissais très mal. Pourtant, je suis juriste de formation et j'ai été littéralement happée parce que il me semblait que derrière cette vérité judiciaire, on arrivait à déceler une vérité humaine.
Mais d'ailleurs, c'est la partie la plus intéressante de votre livre, toute cette partie où vous décrivez de manière clinique, implacable, ce que c'est qu'un procès aux assises pour viol, les plaidoiries, comment les vies sont auscultées, les vies des deux jeunes, les expertises. Vous racontez ça de manière, je le disais, totalement implacable. Quand vous avez assisté à tous ces procès, quand vous avez discuté avec les avocats, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces procès-là?
C'est peut-être ces moments où finalement l'accusé et la victime sont mis à nu. Ils viennent donner leur version. Il y a une sorte de très grande tension au cours de ces procès. Des personnes viennent raconter votre vie. Par exemple, on connaît mal, mais l'enquêteur de personnalité, c'est formidable ce terme. Quelqu'un qui va enquêter sur votre vie, sur votre enfance. Et on découvre des récits de vie souvent saccagés. Et j'ai toujours été étonnée en allant au palais de justice de voir qu'il y avait si peu de gens parmi le public, alors que ça raconte la société d'aujourd'hui. Les décisions de justice sont le reflet de notre société. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va mal? Il suffit d'aller finalement au palais de justice pour le savoir.
Ouais, elle va plutôt mal quand on lit votre livre. C'est parole contre parole. Elle dit, la jeune fille, il m'a obligée à lui faire des choses que je ne voulais pas, mais j'avais peur, alors je les ai faites. Lui dit, j'ai pensé qu'elle voulait. Pourquoi elle n'a pas dit non clairement? Pourquoi elle m'a suivi dans ce local à poubelle? Parce que c'est là où ça se passe. J'ai peut-être été un peu goujat, mais je ne l'ai pas violée. Votre livre pose la question du consentement, de la fameuse zone grise. Cette chose inventée par les hommes, dit Mila. Pourquoi est-ce si compliqué de définir cette zone grise? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle existe, à votre sens?
Alors, pour moi, elle n'existe pas. Pour moi, c'est en fait, c'est le déni. Et ça, en fait, c'est peut-être l'originalité du livre, c'est que j'ai choisi de me placer du point de vue de l'agresseur et de sa famille. Il y a beaucoup de témoignages de victimes, et finalement, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de l'agresseur. Et quand vous allez au palais de justice, vous découvrez ce qu'il y a dans la tête de l'agresseur, parce qu'il quand même il parle, il se révèle. Et il y a souvent du déni, le refus de voir ce que l'on a fait. Et en plus, dans mon histoire, le jeune homme qui est accusé de viol est accusé de viol sur en fait, il faut raconter quand même un petit contexte qui
c'est
est
la fille de l'amant de sa mère.
Voilà, c'est la fille de l'amant de sa mère. Sa mère a refait sa vie avec un homme qui a 2 filles, qui est professeur de lettres dans un lycée du 93. Ils vivent une très grande passion amoureuse, cet essayiste et ce professeur de français, et ils décident de vivre ensemble. Et c'est à cette occasion que le fils va inviter la fille de cet homme, de l'amant de sa mère, à une soirée, et à l'issue de cette soirée, qu'il va y avoir ce viol dans un local, enfin ce moment,
vous
parce qu'effectivement finalement c'est parole contre parole. Et c'est aussi un élément très important, je crois, du livre, c'est la question des codes culturels. Et ça, je l'ai découvert vraiment au palais de justice, c'est-à-dire selon l'éducation que vous avez reçue, vous n'avez pas la même approche. Elle, Mila, vient d'un milieu juif orthodoxe. Lui est le fils d'un très grand journaliste politique qui multiplie les conquêtes, qui a un rapport à la sexualité très libre, et donc
Et donc, évidemment, pour elle, c'est un acte de violence, et pour lui, c'est juste un geste érotique et un moment érotique.
Alors, c'est ce qu'il dit, mais pour avoir assisté aussi à des procès, je vous dis, on est souvent dans le déni, et la victime, elle, est détruite. Et on le voit dans le livre, d'ailleurs. Mais là, elle est détruite à l'issue de cet acte.
Le personnage le plus intéressant est celui de la mère, une normalienne, essayiste à succès, féministe, qui ne comprend pas ce qu'elle a raté justement dans son éducation pour que son fils soit ainsi accusé de viol. Au procès, elle dira « j'ai un sentiment d'échec absolu ». Elle est déchirée entre son amour pour son fils et ses convictions féministes.
Oui, parce que Claire, c'est une femme qui s'est engagée. Par exemple, au moment des actes commis à Cologne, elle s'est exprimée, elle a dit qu'on faisait passer l'antiracisme avant l'antisexisme. Donc c'est une femme qui, sur la question de l'agression sexuelle, qui s'est exprimée publiquement. Et quand c'est son fils qui est visé, effectivement, tout d'un coup,
elle perd tout.
Voilà, c'est une mère. Et c'est aussi une des questions que pose le livre. C'est qu'est-ce qui se passe quand on est parent, quand votre enfant en vient à commettre un crime, un délit, ce point de bascule finalement, qu'est-ce qui vous pousse à commettre un acte de violence? Et d'ailleurs, le livre commence par l'achat d'une arme et quelqu'un qui tire sur un animal, et on comprend finalement toute la charge agressive, toute la charge de violence que contient ce roman, en fait.
C'est un livre sur la violence de la société. L'autre personnage haut en couleur, c'est le père, donc Jean Farel, la quintessence du journaliste politique vedette, narcissique, obsédé par la vieillesse, par garder sa place, qui couche avec les jeunes stagiaires, qui cherche les honneurs. Vous m'avez fait sourire tant on devine que vous avez été inspiré par une ou deux de nos grandes stars journalistiques, même si vous êtes suffisamment maligne pour brouiller un peu les pistes, mais je pense que la personne va se reconnaître. Non, je ne donnerai pas de nom. Pourquoi avoir voulu inclure dans cette histoire de la violence un père célèbre? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce personnage-là? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit célèbre? Pourquoi est-ce que ça augmente l'effet de scandale?
Parce qu'il est très exposé médiatiquement, et aussi parce que j'aime beaucoup raconter les lieux de pouvoir, notamment du pouvoir politique. J'avais été très marquée, comme tout un chacun, par l'affaire DSK, les images de cet homme, l'affaire Tron aussi, finalement toute la violence que ça suscite, les rapports aussi Bill Clinton. Donc tous ces éléments sont aussi présents dans le livre. Mais Jean Farel, dans le livre, ça c'est important, c'est quelqu'un qui a toujours fait preuve de prudence. C'est quelqu'un qui est assez malin pour savoir adopter les bons codes, en fait, en société.
Lui, il est ulcéré par ce qui se passe, par ce mouvement MeToo, balance ton porc. Il dit les relations entre les hommes et les femmes vont être abîmées. On n'osera plus séduire une femme, on n'osera plus l'embrasser. On va arriver à des situations d'incompréhension aberrantes. Ça va être l'horreur. Il a raison quand il dit ça.
Non, moi je crois qu'au contraire, la libération de la parole des femmes a été un élément très important, mais il est évident que ça a fragilisé une partie des hommes. Alors certains sont prêts à remettre en question certains comportements, et notamment les plus jeunes, mais là c'est une génération qui est habituée à d'autres formes de relations avec les femmes, et lui, effectivement, est radical là-dessus pour lui, et d'ailleurs il va même très loin. Il dit « on ne va pas détruire la vie de mon fils brillant, brillant étudiant, homme qui a jusque-là tout réussi pour 20 minutes d'action. »
Enfin, vous esquissez tout de même une critique des revendications féministes et du mouvement MeToo en décrivant, en imaginant une société aseptisée où à terme, hommes et femmes devront signer un consentement sur une application internet avant de se rencontrer. On devra dire « est-ce que j'ai le droit d'utiliser un langage cru, oui ou non? Est-ce que j'ai le droit de mettre la langue quand je t'embrasse? Est-ce que j'ai le droit de faire cette pratique ou pas ?» Vous avez peur quand même d'une société totalement aseptisée, normée?
Alors oui, mais je n'ai rien inventé. Par exemple, ça existe déjà aux États-Unis. Ce que je décris dans le livre, ça existe. Et de plus en plus, on va tendre vers ce genre de rapport. Et en plus, aujourd'hui, on le voit bien, on est dans une société très individualiste où les rapports hommes-femmes sont de plus en plus tendus.
Une dernière question très rapidement sur les réseaux sociaux qui sont un personnage du livre puisqu'ils vont être lynchés. Il va y avoir ce tribunal médiatique qui va les juger avant la justice. Vous étiez présente sur les réseaux sociaux. Vous avez décidé d'en sortir il y a 2 ans. Pourquoi, entre le déversoir de haine de Twitter et l'injonction au bonheur d'Instagram, vous en pouviez plus?
Parce que moi, je suis très attachée au débat, à l'échange, à la démocratie, à l'échange. Et en fait, sur les réseaux sociaux, vous finissez par être abonné qu'à des gens qui pensent comme vous. Et ça, c'est très ennuyeux. Et dans le livre, je voulais raconter comment aussi un procès se joue aujourd'hui sur les réseaux. Donc, le fils n'a même pas eu son procès, qu'il est accusé, que Jean Farel et sa femme Claire sont insultés, et c'est d'une violence inouïe, parce que chacun est sommé de donner son avis immédiatement.
Voilà, c'est un livre qui raconte la violence de l'époque, Les choses humaines, signé Karine Thuil. Merci à vous.
Merci à vous.
Belle journée.
Merci Léa, à tout à l'heure.